Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. La Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours dans l'actualité française, africaine, internationale, où que vous soyez à travers le monde. Appelez-nous, lancez le débat en direct sur RFI. Vous êtes quelques-uns ce matin à souhaiter réagir à l'attaque terroriste d'hier soir sur les Champs-Élysées à Paris. Beaucoup d'appels concernant la crise universitaire au Niger, des réactions également sur le dialogue national au Gabon, qui est entré d'ailleurs cette semaine dans sa seconde phase, la phase politique. Le procès de la semaine prochaine au Burkina Faso, procès qui concerne l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et les ministres de son dernier gouvernement. Là aussi, c'est un sujet qui retient votre attention. On reviendra peut-être sur la République démocratique du Congo, des appels également sur la Centrafrique. Bref, vous le voyez, les sujets ne manquent pas. On va essayer, comme tous les matins évidemment, de prendre le plus grand nombre d'auditeurs. 33 9 693 693 70, et vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux, la page de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. André nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour André.
Bonjour Gomez, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant les tensions entre Bruxelles et Kinshasa?
Évidemment, j'ai appris sur les antennes de la radio RFI et les bruits qui existent entre Kinshasa et la Belgique à propos de leur aide militaire. Mmh. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui était à l'origine de ces bruits.
Alors la brouille, effectivement, c'est vrai que la coopération militaire entre la Belgique et la RDC connaît quelques difficultés. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Juan à Paris, bonjour André à Ouagadougou.
Et vous, vous êtes à Bruxelles, correspondant d'RFI. Expliquez-nous pourquoi les autorités congolaises ont décidé de suspendre la coopération militaire avec la Belgique.
Oui, alors sur la décision de suspendre cet accord de coopération militaire belgo-congolais, il n'y a aucun doute, c'est la partie congolaise qui a signifié à la Belgique sa volonté de ne plus y participer. Soit dit en passant, selon nos sources à l'état-major ici à Bruxelles, les autorités belges ont été totalement prises de court par l'annonce venue de Kinshasa et ont peiné pendant 48 heures pour déterminer lesquels des collaborateurs militaires étaient effectivement au Congo, plusieurs étant notamment rentrés en Europe à l'occasion des fêtes de Pâques. Quant à l'origine de la décision du gouvernement congolais, il ne faut pas chercher bien loin non plus, l'entourage du président Kabila a moyennement bien pris les critiques venues de Bruxelles sur la nomination du nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, des critiques portées en particulier par le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Plus largement, les rapports demeurent toujours compliqués entre la RDC et son ancienne puissance coloniale, 57 ans après l'acte d'indépendance. Cela dit, prétendre punir Bruxelles en renonçant à une forme de coopération dont Kinshasa est l'exclusif bénéficiaire, cela a un petit côté surréaliste que les deux pays cultivent volontiers à parts égales.
André, vous avez une autre question, il me semble.
Oui, j'ai une autre question. Je voudrais savoir, mais qu'est-ce que la Belgique a fait pour le Congo durant toute cette période de coopération qu'ils ont fait pour le Congo?
Vous voulez savoir quels sont les grands axes de cette coopération militaire? Quentin Dickinson.
Oui, bien sans aller dans trop de détails, le programme de partenariat militaire, c'est son intitulé officiel, est axé pour l'essentiel sur la formation. Selon les années, les forces armées belges ont dépêché jusqu'à une centaine de leurs instructeurs au Congo, où ils ont procédé à la consolidation opérationnelle des 321e, 322e et 323e bataillons de réaction rapide. Et dans un autre registre, les Belges ont contribué à la création d'unités d'intégration formées à partir d'éléments provenant de différentes milices dissoutes, en particulier au sein de la 31e brigade. Et puis les futurs officiers, cadres des forces armées de RDC, sont souvent issus de l'école royale militaire à Bruxelles.
Merci Quentin Dickinson d'avoir été en direct avec nous de Bruxelles. Ouaga, à Ouagadougou. André, vous êtes, je sais, devant le grand marché de Ouagadougou. Donc on vous souhaite une bonne journée sur place à Ouagadougou. Il est 8h15. 33 9 693 693 70. On s'intéresse maintenant aux élections législatives anticipées au Royaume-Uni. Bonjour Taïrou.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako, au Mali, soyez le bienvenu.
Merci à vous. J'ai appris que Theresa May a convoqué des élections législatives anticipées pour le 8 juin prochain. Pourquoi ? Quelles sont ses chances de l'emporter ? Et si Theresa May... Oui.
Allez-y, oui, pardon, je vous ai interrompu.
Et si elle arrivait à obtenir une majorité confortable, quelles seraient les influences sur la sortie définitive de l'UE ?
Alors c'est vrai qu'en convoquant ces élections anticipées, Theresa May espère bien renforcer sa majorité au Parlement. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Theresa May a pris, disons-le, tout le monde par surprise en provoquant ces nouvelles élections, d'autant que ces derniers mois, elle a plusieurs fois répété que le pays avait besoin de stabilité, donc pas besoin d'élections anticipées. Pourtant aujourd'hui, elle fait le contraire.
Oui, effectivement. En fait, Theresa May a toujours dit que les élections auraient lieu comme c'était prévu en 2020. Et puis, elle a surpris tout le monde en disant cette semaine, eh bien, je vais convoquer des élections législatives plus tôt. Et en fait, elle a de très fortes chances de remporter ces élections législatives parce qu'aujourd'hui, son parti, le Parti des conservateurs, est largement en tête dans les sondages. S'il y avait des élections législatives aujourd'hui au Royaume-Uni, les conservateurs auraient 40% des votes. Et donc, c'est vraiment une position de force dans laquelle... Theresa May espère être, lors du scrutin de juin prochain, pouvoir dégager une forte majorité des conservateurs. Actuellement, il n'y a qu'une majorité de 17 sièges au Parlement britannique favorable aux conservateurs. Donc en fait, je pense qu'avec ces élections, Theresa May essaye de s'assurer une majorité forte au Parlement. Ça lui permettra d'avancer plus facilement dans les négociations avec les autres pays de l'Union européenne. Et puis surtout, je pense qu'elle essaye par cette façon d'éviter de se retrouver en 2020 à un moment où il faudra mener des élections et qu'elle sera encore en train de discuter avec les autres pays de l'Union européenne des conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et donc en fait, elle utilise, me semble-t-il, aujourd'hui cette force des conservateurs dans les sondages pour s'assurer une majorité parlementaire confortable.
Donc c'est une décision purement tactique, elle pense déjà aux élections de 2020-2022. Et le moment, Catherine Mathieu, est d'autant bien choisi que le 8 juin, le jour de ces élections anticipées, les négociations avec l'Union européenne n'auront pas encore commencé, c'est-à-dire que les électeurs ne vont pas pouvoir d'ici là peut-être la sanctionner si les négociations commencent mal, puisqu'elles n'auront pas commencé.
Oui, tout à fait. Et puis, juin, c'est aussi un moment où on aura eu le résultat des élections en France présidentielle, mais pas le résultat des élections en Allemagne. Donc, un moment où, en fait, avec l'Union européenne, Theresa May ne peut pas vraiment discuter parce que on n'aura pas les nouveaux gouvernements des grands pays de l'Union européenne. Donc, Theresa May profite aussi de ce moment où rien de très fort ne se passera avec l'Union européenne pour mener sa campagne au Royaume-Uni. Ensuite, au Royaume-Uni, c'est quand même assez compliqué les positions des uns et des autres sur le maintien ou pas du Royaume-Uni dans l'Union européenne. À l'intérieur des partis, hein, en particulier chez les travaillistes, il y a vraiment des visions très très différentes sur le fait que le Royaume-Uni doive rester dans l'Union européenne ou en sortir. Donc de ce point de vue-là, c'est très difficile, y compris pour les partis qui pourraient essayer aujourd'hui de plaider en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, en particulier le parti indépendantiste écossais, d'avoir un appui très fort de la majorité des Britanniques pour inverser le processus de sortie de l'Union européenne. Donc c'est vraiment une situation très complexe.
Oui. Complexe, en même temps vous nous dites que Theresa May devrait largement gagner ses élections. Est-ce qu'il n'y a tout de même pas un risque que ces élections redonnent du souffle aux anti-Brexit?
Bah oui, je dirais que c'est une possibilité aujourd'hui qui s'ouvre pour les partisans du Remain de rester dans l'Union européenne, en particulier du côté des libéraux-démocrates, qui avait été complètement laminé lors des élections de 2015, de retrouver aujourd'hui de la force au Royaume-Uni. Mais pour le moment, en fait, on ne voit pas de tendance se dégager en faveur des partisans du Remain. Alors je dis pour le moment, parce qu'on a tous été surpris l'an dernier par le résultat des élections, enfin du référendum. On va de surprise en surprise. Bon, aujourd'hui quand même, il semble que les partisans du Remain aient du mal à retrouver une force au sein du Royaume-Uni et que Theresa May, pour l'instant du moins, arrive à maintenir une cohésion britannique en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Taïrou, on a répondu à vos questions ?
Oui, on ne peut plus clair. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe.
Merci à vous de votre fidélité. Bonne journée à Bamako et un grand merci à Catherine Mathieu d'avoir été avec nous ce matin, spécialiste du Royaume-Uni. Si vous nous écoutez en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas notre rendez-vous mercredi prochain à Abidjan. Nous y serons tout l'après-midi dans le quartier d'Anoumabo à l'école Magic System. Entre 15h et 18h, nous allons enregistrer deux émissions. Nous allons d'abord parler du malaise social. On va essayer de comprendre pourquoi la relance économique ne profite pas à tous les Ivoiriens, une croissance à 8%, les investisseurs sont de retour, mais visiblement, tout le monde ne semble pas profiter de cette embellie économique. On attend évidemment vos témoignages, dites-nous si vos conditions de vie se sont améliorées ces 6 dernières années, depuis la fin de la crise post-électorale. Nous en parlerons évidemment avec nos invités. Et puis pour la deuxième émission, Asalfo du groupe Magic System sera le rédacteur en chef de l'émission. Asalfo qui est le leader du groupe Magic System, c'est lui le fondateur, l'organisateur du FEMUA, le Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo qui se tiendra toute la semaine prochaine à Abidjan. Eh bien, Asalfo a choisi de débattre avec vous sur deux sujets, le réchauffement climatique, l'Afrique face à ce défi, et on parlera également avec vous tous et Asalfo de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Donc venez nombreux, mercredi après-midi entre 15h et 18h à l'école Magic System d'Anoumabo à Abidjan. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant vous inscrire en nous appelant ou sur les réseaux sociaux si vous souhaitez prendre la parole lors de ces deux émissions. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service des sports d'RFI. Plusieurs questions concernant la Ligue des Champions. On va d'abord commencer avec une question sur la qualification de Monaco pour les demi-finales. Bonjour Fofana.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Très bien, on vous écoute.
Je présente mes condoléances à le policier qui a été assassiné hier par les lâches qui se promène dans ce monde, qui le policier qui prend notre vie en main. Et je viens sur la question qualification de Monaco sur 3-1. Est-ce que Monaco peut rivaliser trois équipes qui restent Juventus et puis Real Madrid et puis Atlético de Madrid? Et qu'est-ce qui serait le meilleur profit de tirage au sort pour Monaco?
Alors, Alejandro Valente, alors, le meilleur tirage pour Monaco, un peu de patience encore, hein, le tirage au sort aura lieu dans un peu moins de 2 heures maintenant en Suisse. Vous pourrez évidemment tout suivre sur l'antenne d'RFI. Un mot d'abord sur le parcours, sur l'exploit de Monaco. C'est vrai que c'est la première fois depuis 7 ans, je crois, qu'un club français se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions. Belle performance déjà.
Oui, mais en plus, l'exploit de Monaco, c'est quelque chose qu'aucun club d'aucun pays n'avait jamais réussi dans l'actuelle formule de la Ligue des Champions, à savoir être issu du tour préliminaire, du troisième tour préliminaire. Donc, ils ont dû passer par là, par le barrage, avant d'accéder à la phase des poules et arriver en demi-finale. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
Ils reviennent de loin, effectivement, les Monégasques. Des 4 demi-finalistes, Monaco est incontestablement l'équipe la moins expérimentée. Face à Monaco, il y a le choix. Real Madrid, Atlético Madrid ou la Juventus de Turin.
Voilà, toutes des équipes qui, au cours des deux dernières saisons, ont joué au moins une finale des Ligues des Champions, c'est-à-dire le niveau. Alors, tout le monde s'accorde à penser que l'Atlético Madrid serait le tirage idéal pour Monaco. C'est quand même Détroit, l'équipe a priori la moins impressionnante dans les tours précédents. Ils ont eu du mal à éliminer Leicester. C'est une équipe qui a connu des hauts et des bas cette saison. Donc, c'est un peu l'adversaire idéal. En dehors de ça, c'est lui à éviter à tout prix, a priori, c'est la Juventus, qui a prouvé face à Barcelone avoir une défense extrêmement solide et une capacité de jouer en contre qui pourrait poser beaucoup de soucis à Monaco. Et puis le Real Madrid, qui évidemment est une équipe qui est redoutable par sa puissance offensive, mais qui a l'avantage pour Monaco de lui rappeler des bons souvenirs. Parce qu'en 2004, justement, lors de la dernière grande campagne de Monaco en Ligue des Champions, ils avaient éliminé le Real Madrid.
Oui, le Real Madrid qui, cette année, a des problèmes défensifs.
Absolument.
Donc si jamais Monaco tombe sur le Real, ça peut être aussi un avantage pour Monaco, puisque j'ai regardé un peu les statistiques, le Real a encaissé 15 buts depuis le début
de
cette Ligue des Champions.
Ça peut être un peu ouvert. De toute façon, ce sera très compliqué face à tous ses adversaires, mais c'est quand même beau de disputer des demi-finales, et je pense que les Monégasques vont donner le maximum pour aller encore plus loin.
Tirage au sort donc à midi. Autre question, Issa, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Koudougou.
Tous les auditeurs des RFI.
On vous écoute.
Ok. Mardi soir, le Real s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions en battant le Bayern Munich 4-2. Au cours de ce match, l'arbitrage a été une nouvelle fois remis en cause. Comment expliquer alors le silence de l'UEFA face à ces critiques?
Ouais, Alejandro Valente, c'est vrai qu'une fois de plus, il y a eu des erreurs d'arbitrage, des erreurs en plus à sens unique. Ça, c'est toujours vers, la même équipe.
Disons qu'en fin de match, on était avec deux équipes qui étaient à égalité parfaite sur l'ensemble de deux matchs. Le Real avait gagné 2-1 à Munich et le Bayern menait 2-1 à Madrid. Donc on s'attendait à une fin de match haletante et puis il y a eu une succession d'erreurs. Il y a un joueur du Real, Casemiro, qui a failli être expulsé, et l'arbitre s'est ravisé au dernier moment et l'a pas expulsé. Ensuite, il expulse Arturo Vidal, qui c'était pas injuste en soi, dans l'action, il n'avait pas fait de faute. Et puis surtout, il y a les deux buts qui font pencher la balance, qui sont marqués hors jeu par Cristiano Ronaldo dans la prolongation. Donc évidemment, ça fait un peu beaucoup pour le Bayern. Bayern
évidemment, pénalisé par ses erreurs.
Absolument. Et évidemment, l'arbitre, Monsieur Kassai, est aujourd'hui dans les collimateurs des Allemands et un peu aussi de l'UEFA. On risque pas de le revoir de sitôt.
Oui, Alejandro, excusez-moi, on se souvient des erreurs d'arbitrage lors du match retour Barça-PSG. L'UEFA n'a pas suspendu l'arbitre en question.
Voilà, disons que c'est pas la politique de l'UEFA, mais on n'a pas besoin de suspendre. On ne l'appelle plus tout d'un coup. Et voilà qui règle l'affaire. Mais je pense qu'au-delà, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Aujourd'hui, ce qui paraît insupportable aux yeux de beaucoup, c'est qu'on pourrait éviter au moins une partie de ces erreurs, notamment sur les hors-jeux, par exemple, en faisant appel à la vidéo. On a fait des expériences assez probante. En France, par exemple, on va tester ça lors des barrages des fins de saison. Et on pense que l'UEFA pourrait accélérer un petit peu la mise en place de ce dispositif dans ces compétitions.
C'est exactement ce que réclame l'entraîneur du Bayern, Carlo Ancelotti, qui dit il y a trop d'erreurs en ce moment. Il est temps d'instaurer l'arbitrage vidéo. Issa, vous avez une autre question?
Oui, Juan. Avec cette défaite du Bayern Munich, est-ce que le poste de Carlo Ancelotti est-il remis en cause?
Alors, Carlo Ancelotti sera-t-il là la saison prochaine?
Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été confirmé, mais a priori, il est sous contrat. Il a fait quand même une bonne saison avec le Bayern. Son élimination est due en grande partie à des problèmes d'arbitrage plutôt qu'à des problèmes de son équipe, qui a réussi une belle performance face au Real, qui va être champion d'Allemagne. Donc, je pense qu'il a toutes les conditions pour continuer sa mission.
Sur Facebook, Issa, qui est à Bamako, nous dit, après l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions, n'est-ce pas l'heure du changement, notamment au niveau du staff?
C'est l'heure du changement dans la mesure où déjà Luis Enrique, l'entraîneur, avait annoncé bien avant cette élimination qu'il allait quitter son poste. Donc, de toute façon, Barcelone était déjà engagé dans une réflexion sur le nom du successeur, qu'on devrait connaître assez rapidement. On va attendre sans doute l'issue de la saison en championnat, car dimanche, vous n'ignorez pas qu'il y a le Classico Real-Barcelone. Barcelone doit gagner à Bernabéu pour conserver les chances éventuellement d'être champion. Donc, à mon avis, on attendra de faire le bilan à l'issue de cette échéance, mais on devrait assez rapidement être fixé sur le nom du successeur.
De Luis Enrique, concernant les joueurs?
Concernant les joueurs, il faudra du nouveau. On sait que le recrutement l'été dernier n'a pas été une réussite. Donc aujourd'hui, Barcelone doit chercher des solutions, notamment en défense et au milieu du terrain, des positions où l'équipe a été un peu défaillante ces derniers temps.
Merci beaucoup Alejandro Valente. Merci à vous tous de votre fidélité. D'autres questions à la rédaction, ce sera lundi. D'ailleurs lundi, nous vous proposerons une émission spéciale. Nous serons au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française. Donc vous pourrez évidemment commenter, analyser les résultats, mais aussi nous poser toutes vos questions sur les programmes des deux finalistes, les enjeux du second tour ou encore l'avenir politique de la France. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes. Comme tous les vendredis, ce sera la Libre Antenne.